heures, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je vous retrouve comme tous les jours jusqu'à 16h en direct pour partager vos expériences de vie, car pendant cette heure, je suis non seulement accompagné de ma camarade Ombline, mais nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne beaucoup les femmes, bien évidemment les garçons.
Oui.
Nous allons parler du look.
Hein. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour,
ça va?
Ça va très bien. En chemise à carreaux aujourd'hui.
En chemise à carreaux. Alors, comme je vous le disais, on va parler de quelque chose de très important pour nous tous, notre façon de nous habiller, qui en dit beaucoup sur nous, apprêté ou décontracté, discret ou flashy. En matière de look, tout est possible, comme en matière de personnalité. Le style que l'on affiche est un moyen de s'affirmer, de se singulariser. Même parfois, vous êtes plutôt col Claudine, genre petite fille sage, ou chemise jean, plutôt décontracte, un peu rock, plutôt bleu marine ou orange, ou plutôt veste à paillettes, comme Juliette Armanet.
J'avais mille costards, celui bleu, vert et noir, motif de Dakar. Camouflage de star pour faire briller le bazar, glisser les trottoirs.
Comment définissez-vous votre style aujourd'hui? Comment vous a-t-on... Est-ce qu'on vous, on vous a déjà fait des remarques sur votre apparence, sur votre look? Certains n'hésitent pas à faire appel à des coachs, à des stylistes ou à des relookers pour se sentir mieux ou à trouver leur style. Alors ce look, que dit-il de nous? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons bien évidemment vos témoignages, nous attendons vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Venez nous décrire votre look au 39-21, 50 centimes la minute, ce qu'il dit de vous. Sur Twitter, vous nous écrivez hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Sylvie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, moi j'ai 48 ans et je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors vous avez grandi à la cité des 4000 à la Courneuve. Quel était votre look et votre rapport à ce look lorsque vous étiez enfant puis adolescente?
Alors dans un premier temps, on portait les vêtements dispensés par la Courneuve, la mairie de la Courneuve.
Oui.
Donc plutôt un uniforme qu'on nous donnait. Et puis après, il y avait le streetwear, hein, qui est le streetwear qu'on connaît aujourd'hui, qui trouve évidemment sa source en banlieue.
Mmh.
Et puis ensuite, la bascule s'est faite quand j'ai dû aller étudier à Paris, à la Sorbonne. Et là, on essaie de se composer un look, j'allais dire, qui rentre dans la masse.
Et à la Courneuve, en fait, lorsque vous parlez de sweat, de pantalon, de survêtement, tout ça, ces codes vestimentaires à respecter, c'était plus ou moins tacite?
Disons que, alors il n'y avait pas les rumeurs qu'on entend aujourd'hui sur les filles qui portent pas de shorts, pas de robes, etc. On portait des shorts, on portait des robes, mais c'est vrai qu'on est, comme souvent les adolescents, on était dans toutes les castes sociales, hein.
Oui.
On était uniformisés avec de la basket, quoi. Enfin moi j'ai grandi en basket, je peux le dire.
Mmh. Mais les filles, on sait que aujourd'hui il y a un retour, en tout cas de l'obscurantisme dans ces cités où s'habiller un peu avec audace, ça définit un peu la personne. Est-ce que à l'époque c'était la même chose pour vous?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Vous pouviez vous habiller de manière excentrique et ça n'était pas jugé.
Excentrique, en short, en robe, en petite jupe. Ce n'était pas du tout un sujet puisque le religieux n'avait pas encore pénétré les cités. Je parle des années 80, le début des années 90. Hein. Après, je crois que ça a tourné malheureusement. Mais,
en tout cas,
oui,
ça n'était pas jugé. Une fois étudiante, vous avez intégré donc la Sorbonne à Paris. Le rapport à votre look a changé à ce moment-là?
Alors oui, d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les bourgeoises » où je relate ça. Je relate le rapport aux vêtements, aux costumes, parce que j'étais très, très étonnée de voir qu'une fille de ministre, alors qu'on était en lettres, en littérature, venait habillée en robe espagnole, par exemple.
Mmh.
Et pour le coup, là, je trouvais ça audacieux, pour pas dire ridicule. Et j'étais subjuguée par, la liberté avec laquelle ces jeunes filles s'habillaient. Et alors, un autre point, c'est que à la cité, quand on vient d'une cité et qu'on doit aller à travailler, faire ses études à Paris, dans le 5e arrondissement de Paris, On a quand même une chance, c'est que notre appartement, on le porte pas sur notre dos et notre vêtement, si. Donc, je prenais un soin particulier à dépenser l'argent de mes bourses en m'achetant à l'époque un costume d'homme chez Agnès B, à essayer de bien m'habiller, où je trouvais à la Sorbonne des filles du quartier, des filles du 6e, j'allais dire de bonne famille, avec des jeans complètement déchirés, avec un accoutrement plutôt, c'était le début du grunge, et moi, ça me subjuguait cette liberté qu'elles avaient, parce que précisément, ma seule parcelle de dignité, j'allais dire, c'était le costume, en fait, c'était le vêtement, puisque je ne pouvais pas leur montrer dignement l'endroit où j'habitais.
Mmh. Mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des codes vestimentaires plus bourgeois, plus élitistes, et qui déterminaient les personnes à la Sorbonne ?
Eh ben, moi, c'est ce que je voulais penser, alors qu'en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Parce que ces filles-là, ayant grandi dans le confort et j'allais dire dans l'opulence, elles s'habillaient un peu comme elles voulaient. Et comme il est dans la jeunesse de bon ton d'aller contre l'éducation qu'on a reçue, en tout cas dans un premier temps, moi j'ai croisé des filles qui avaient des cartables défoncés, des jeans troués, des pulls de 1000 ans. Ouais. Quand moi je faisais attention à repasser le col de ma chemise, à avoir un cartable neuf à chaque rentrée scolaire, etc.
Vous avez eu du mal à vous y faire, justement, parce que finalement, ces jeunes filles dont vous parliez, elles cultivaient un côté un peu voyou, elles allaient à l'encontre de toute leur éducation, finalement, à travers ce look.
Absolument, absolument. Il y avait un côté...
La bourgeoise qui s'encanaille,
c'est exactement le mot que j'allais dire. Il y avait un côté la bourgeoise qui s'encanaille. La bourgeoise qui met un jogging Adidas pour aller à l'école quand moi, je repassais le pli de mon pantalon.
Ouais.
Parce que précisément, j'avais grandi au milieu des joggings et que quand on arrivait à Paris avec un jogging, une casquette sur la tête et des Adidas toujours bien nettoyés au dissolvant, on apparaissait comme le banlieusard, la banlieusarde qu'il fallait éviter. Donc c'est comme si on avait fait l'une et l'autre, les bourgeoises et moi, mais ça je le raconte dans mon livre Les Bourgeoises.
Ouais.
C'est comme si on avait fait le trajet inverse de celui d'où on venait, vous voyez ?
Et ce qui est assez étonnant finalement dans votre histoire, parce que j'ai lu votre livre Les Bourgeoises, c'est que vous allez à l'inverse comme vous le dites, mais si vous vous étiez habillé comme au quartier, hein, celui dont vous veniez, finalement ça ne vous aurait pas servi. Donc c'est assez paradoxal de voir que les bourgeoises, en tout cas les vraies, s'habiller à l'inverse de leur éducation. Sylvie, vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous allons continuer de voir comment votre look a évolué, mais surtout, lequel vous revendiquez aujourd'hui.
Et Corinne nous écrit sur Facebook, je pense que le look peut dire ce que l'on veut, finalement, puisqu'on peut le modifier. Et Sylvain écrit de son côté, le look est pour moi un jeu de rôle.
Europe 1.
Alors, on parle de notre look, notre tenue vestimentaire aujourd'hui, ce qu'il dit de nous, ce look. Venez nous décrire le vôtre au 3921. Merci de choisir Europe 1 jusqu'à 16h. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de votre look vestimentaire. Vous avez un certain goût de la provoque ou tout de noir vêtu, vous ne faites pas vraiment attention à votre apparence, on vous attend au 3921.
Nous sommes toujours en ligne avec Sylvie qui nous expliquait qu'en venant de la Courneuve et en intégrant la Sorbonne, déjà à l'époque, hein, c'était quelque chose d'énorme pour vous, ne serait-ce que le trajet. Vous nous expliquiez que voilà, le look que vous y aviez trouvé finalement allait à l'inverse de ce que les jeunes filles bourgeoises avaient appris dans leur éducation et qu'on sortait des codes très clean, hein, et qu'on avait des jeunes filles habillées avec des jeans troués, des looks grunge, ce qui était assez étonnant pour vous qui veniez d'un quartier où finalement vous appliquiez à être, à croire devoir ressembler à toutes les autres étudiantes, à cette population. Au fur et à mesure de votre ascension sociale, avez-vous l'impression que votre look se conformait à ce qu'on attendait de vous au milieu dans lequel vous évoluiez?
Ben non, mais c'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de trajet, c'est-à-dire quand on fait le voyage du prolétariat vers la bourgeoisie, on se détend un peu. En fait, on essaye plein de choses, on essaye de rentrer dans ce qu'on pense être le moule, on se rend compte que le moule n'est pas si simple que celui qu'on avait envisagé. Et puis, ma foi, après, aujourd'hui, par exemple, ce qui est drôle, c'est que je peux me balader avec des Nike aux pieds et un sac Hermès à la main.
Ouais.
Vous voyez, donc c'est une espèce de mixte entre les origines sociales et celles qu'on a embrassées.
Mmh. Voilà. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que ce mélange les créateurs de mode vont le chercher. Hein. Ils sont toujours
aujourd'hui,
en quête de
oui.
ça.
Bah, bien sûr. Mais bien sûr, quand on voit des gens comme Virgil Abloh qui bosse pour Vuitton aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient de la rue. C'est un black des quartiers populaires. Donc, c'est quand même un signal fort pour les grandes maisons comme LVMH de recruter ce qui a priori sont des gens de la rue. Je veux dire, Virgil Abloh n'a pas été élevé dans Uptown, sous les ordres des immeubles de Central Park. Et c'est les grandes maisons très luxueuses pour le coup qui recrutent ces gens-là. Donc de toute façon, la mode a toujours trouvé sa source dans la rue, ça c'est sûr. Ouais. Vous savez pourquoi ? C'est parce que quand on n'a pas d'argent, on est obligé d'avoir de l'imagination. Donc, je ne vais pas paraphraser une vieille pub réactionnaire des années 80, mais quand on n'a pas d'argent, on est obligé d'avoir des idées et de s'inventer des looks. C'est pour ça que nous, on allait s'habiller aux puces à l'époque. Ouais. Et je pense que c'est le propre des gens des milieux populaires. C'est qu'on aime la mode parce qu'on la voit. On la voit dans les médias, dans les magazines, à la télé, etc. Mais après, il y a un principe de réalité. C'est soit tu voles, soit tu t'essayes de t'inventer un look. Et ça crée, ça provoque l'imaginaire.
Mmh. Et justement, est-ce que vous considérez que votre style, il est comme une vitrine et qu'en quelque sorte, il est ce que vous représentez aujourd'hui lorsque vous vous habillez? Est-ce que vous avez l'impression de faire passer déjà quelque chose, un vrai message de la personne que vous êtes?
Oui, absolument. Mais de toute façon, ça, c'est très abordé dans les livres que j'ai écrits. C'est-à-dire que je raconte comment on se fabrique une identité globale à travers l'identité extérieure, c'est-à-dire le vêtement. Le vêtement, la chevelure, je parle aussi de mes cheveux. Ouais. Je dis, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai des parents qui ne sont pas français et je suis sortie avec les cheveux très raides. Donc, je pouvais me fondre dans la masse des bourses. Moi, j'étais en lettres à la Sorbonne à Paris 4, donc je peux vous dire qu'en lettres, il n'y a pas beaucoup de prolos qui viennent s'occuper. Quand on est prolo, on va plutôt faire un BTS ou chercher un métier, j'allais dire, efficace. Donc là, il y avait quand même beaucoup de bourgeoises qui cherchaient à se fabriquer une locution, qui avaient aussi l'amour des belles lettres, etc. Donc, déjà, l'idée d'avoir les cheveux raides et plutôt clairs, j'ai dit merci mon Dieu, je me fonds dans la masse. Et puis après, je vous dis, il y a eu ce hiatus sur le vêtement où en effet, j'avais des a priori, comme elles peuvent avoir des a priori elles sur les gens de mon milieu, et je m'étais complètement plantée. C'était beaucoup plus subtil que ce que j'envisageais.
Mmh. Mais alors, moi, je vous connais à travers vos livres, hein, Les Bourgeoises, Papa Was a Rolling Stone, qui a fait un film d'ailleurs, donc c'est deux bouquins qui sont aux éditions Robert Laffont. Je me dis, à chaque fois que je pense à vous, je me dis, elle a quand même la chance de venir de la Courneuve. D'ailleurs, où vous revenez régulièrement, pratiquement tous les week-ends, voir votre mère. Et c'est une chance, ça, de pouvoir vous inspirer toujours des codes de la cité, de ce que vous voyez chaque week-end. Et puis, aujourd'hui, habitant dans le 16e arrondissement, hein, vous m'arrêtez, hein, vous êtes dans le 16e.
Non, oui.
Vous vous inspirez encore de tout ça aujourd'hui ?
Bah, disons que j'ai très fort retenu une phrase de ma grand-mère quand j'avais 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus, 23 ans, où elle me disait « Tu as une force par rapport aux filles de Paris, c'est que toi, tu as fait le trajet dans les deux sens, elles sont incapables de faire le trajet à l'envers, de venir s'installer aux 4000. Mais... » Et ça, j'ai toujours considéré ça, il n'y a aucune arrogance dans ce que je dis, mais j'ai toujours considéré ça comme une force.
Mais ce look, il est naturel pour vous aujourd'hui, parce que vous revendiquez, hein, vos racines. Voilà, je pense à ce que vous disiez, votre grand-mère. Il n'y a pas plus que vous. Vous avez le droit de revendiquer ce look plus que personne, parce que vous venez de la Courneuve et que vous avez fait cette ascension. Mais est-ce qu'on vous a déjà fait des remarques justement à ce sujet? Parce que il y a votre franc-parler, mais il y a ce look qui vous définit, je trouve, à chaque fois qu'on vous croise. Est-ce qu'on vous a déjà fait remarquer cela?
Bah oui, il y a un côté. Alors moi maintenant, parce que je me suis affranchie de certains critères que je pensais impératifs, mais parce que j'ai une plus grande liberté, puis que j'ai pris de l'âge, j'ai eu des enfants, etc., donc j'ai pris confiance. Ouais. Mais c'est vrai que vous avez absolument raison, c'est-à-dire que quand j'étais à la Sorbonne, je superposais les paraboutes, le manteau Agnès B, le pantalon de marque, etc., enfin on superposait comme ça les marques pour précisément cacher, entre guillemets, la honte du milieu dans lequel on vivait, des cages d'escalier, des immeubles pourris dans lesquels on vivait. Et c'est vrai que j'ai eu quelques réflexions en disant, mais c'est pas possible, c'est au look qui coûtera le plus cher, quoi. Oui, j'ai eu des... Je me suis même battue. Ouais. Je me suis même battue. Et puis, une bourgeoise, un jour, m'a dit, mais ça, je le raconte dans le livre des bourgeoises. Ouais. Elle m'a dit, en fait, t'as beau t'habiller comme une bourge, quand t'ouvres la bouche, c'est mort. On voit que t'es une fille des rues.
Mmh. En tout cas, merci beaucoup, Sylvie, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes auteur de Papa Was a Rolling Stone, du livre aussi Les Bourgeoises, qu'on peut toujours trouver chez Robert Laffont, et puis l'excellente adaptation de votre film Papa Was a Rolling Stone. Merci d'avoir partagé vos réflexions sur le look, la mode d'aujourd'hui, et ce que cela dit de nous aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1. Passez une bonne journée, Sylvie.
Pareillement, au revoir.
Au revoir. Et dans quelques instants, nous accueillerons Jean-François Amadieu. Il est sociologue et auteur de l'ouvrage « La société du paraître ».
Europe 1. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Sylvie, vous témoignez au 39-21. Votre look reflète-t-il votre identité, vos identités au fil de votre parcours de vie? Vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Rien n'est plus désolant qu'un grand placard vide. Même limite n'y mange plus.
Horreur, malheur à un placard vide, chantent les Parisiennes, c'est-à-dire Ariel Dombal, Mareva Galanteur et Namoja. On n'a vraiment plus rien à se mettre. Et ce que vous mettez, qu'est-ce que ça dit de vous, de votre look à votre personnalité? Est-ce que c'est une ligne droite? Voilà, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, 39-21 pour nous dire.
Et nous sommes justement avec Jean-François Amadieu, qui est sociologue. Bonjour monsieur, merci d'être avec
bonjour.
Nous sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez sorti votre ouvrage « La société du paraître » aux éditions Odile Jacob, après avoir publié « Le poids des apparences ». Vous êtes bien au courant de ce poids des apparences. Qu'entendez-vous par cette société du paraître?
Oui, mais la société du paraître, c'est que on savait déjà depuis, j'allais dire, la nuit des temps, que votre physique ou votre look, ça compte évidemment dans les relations en général. Sauf qu'il y a eu une accélération absolument certaine du phénomène depuis une dizaine d'années à peu près, 10-15 ans. Et vraiment, c'est pour ça qu'on peut parler vraiment de société du paraître aujourd'hui, et pas seulement du fait qu'on est jugé sur son look ou son physique, c'est que ça a pris des proportions, en raison essentiellement, c'est vrai qu'on personne ne le réalise maintenant, mais c'est Facebook, par exemple, c'est très récent. Ça n'est que finalement, ça doit apparaître en 2004, et c'est vraiment, au fond, depuis ces 15 dernières années. Même l'apparition du like, la multiplication des sites de rencontres, ça, c'est des phénomènes très récents. Et finalement, quand vous regardez, c'est essentiellement en permanence des photos de vous
oui.
qui circulent et des jugements, des évaluations qui sont faites sur vous.
Et des photos de nous bien choisies.
C'est ça, exactement. Mmh. Alors, il y a un développement du narcissisme, etc. Et puis, on est jugé sur aussi bien en amour que dans l'amitié ou bien pour le travail, sur cette base-là, sur ce qui circule sur les réseaux sociaux. Les échanges de photos, c'est la moitié du trafic sur les réseaux sociaux.
Mais alors, justement, j'ai une question à vous poser sur justement le vêtement. Représente-t-il cette frontière entre l'intime et le monde social? Comment il représente cette frontière, ce vêtement?
Oui, bien sûr, puisque lorsque vous êtes, je dirais, au naturel, chez vous, que vous n'avez pas fait l'effort de
vous apprêter,
à l'instant, voilà, de vous apprêter pour la vie sociale, mais dès lors que vous mettez les pieds dehors, en fait, évidemment, vous vous habillez, vous jouez un rôle, vous êtes en représentation d'une manière ou d'une autre, plus ou moins fortement. Et donc, tout le monde est, comme on le sait, un caméléon. C'est ça la participation à la vie sociale, d'une certaine manière. Donc on adapte, tout le monde adapte, et on n'est pas habillé de la même manière selon les circonstances.
C'est souvent à l'adolescence qu'on se permet le plus d'extravagance, quand on cherche. Pourquoi cette période de la vie, marque une recherche plus accrue dans notre apparence?
Oui, alors avec un problème au moment de l'adolescence, c'est que c'est dans les enquêtes qu'on a en France, par exemple, c'est à l'adolescence que les jeunes indiquent qu'ils sont le plus victimes de moqueries, de mises à l'écart en raison de leur look.
Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre téléphone et tout, parce que j'ai l'impression que vous avez votre main devant le micro, j'ai du mal à vous entendre.
Oui, donc je disais qu'à l'adolescence, il y a beaucoup de jeunes pour mettre en premier comme motif de mise à l'écart, de moquerie, de raillerie, le look. Donc il y a beaucoup de jugements pas seulement sur le physique, mais plus encore sur le look en général. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de jeunes parviennent à s'affranchir, cherchent à adopter des codes, rejoignent des tribus et donc veulent le montrer par leur look, mais la liberté qu'ils ont à cet âge-là est quand même très relative, parce que il y a tellement de pression et de jugement sur votre look que, par les autres, vos camarades, que c'est très difficile, surtout dans une période où les jeunes doutent par ailleurs.
Ensuite, le style traduit souvent le milieu social d'où l'on vient. A-t-on du mal à s'affranchir des codes, des us et coutumes ?
Bah, déjà, la première difficulté, c'était d'ailleurs, juste avant, vous aviez Sylvie Oyon qui en témoignait. Déjà, une première difficulté, on le voit encore, moi je le vois beaucoup avec nos étudiants qui viennent d'un peu partout de la région parisienne. En fait, c'est déjà pas si évident de comprendre la manière, les codes vestimentaires, la manière dont les différents milieux vont pratiquer. Vous voyez, ça, c'est déjà pas si évident. C'est un marqueur, effectivement, que votre look, l'ensemble du look, hein, on peut inclure pas seulement les vêtements, il faut peut-être le dire, mais ça porte aussi sur les piercings, les tatouages, coiffures, enfin tout un ensemble, les bijoux, etc. Donc c'est quand même très large, et c'est vrai que c'est un marqueur important, et c'est pas si facile que ça de maîtriser soigneusement les codes des autres groupes sociaux.
En plus, j'ai envie de vous dire qu'il y a tellement une multitude de looks aujourd'hui et qu'on peut tellement changer des marques qui sont devenues moins chères vous permettent tellement de démultiplier vos looks que finalement on arrive à noyer un peu le poisson quant au milieu social auquel on appartient. Pour certaines personnes, devoir porter un uniforme, c'est être empêché d'être soi-même. Pour d'autres, c'est un moyen d'être sur un pied d'égalité. Qu'en pensez-vous, vous ?
Ah oui, bien sûr, vous avez raison. Tout le monde connaît ce débat sur l'opportunité de généraliser le port de l'uniforme, par exemple, dans un cadre scolaire. Et effectivement, un des arguments forts, il faut le reconnaître, c'est qu'il a pour effet de lisser les appartenances sociales et les niveaux de revenus. Donc il est certain que c'est très intéressant de ce point de vue. Ça met un terme non seulement au phénomène de moquerie, mais à tout jugement ou classement sur la base de l'origine sociale. Donc c'est vrai que c'est intéressant de ce point de vue.
Alors,
quant aux entreprises, bon, là dans le monde du professionnel, c'est un peu différent. Disons que dans les entreprises, il est certain qu'il peut y avoir, et c'est un problème, dès l'embauche et par la suite, des mises à l'écart ou des discriminations pour ceux qui ne maîtrisent pas bien les codes. Et c'est pour ça que c'est vrai que s'il n'y a pas de port d'uniforme, il faudrait au moins que tout le monde soit au courant des normes du type de l'entreprise, du secteur dans lequel vous êtes.
En ce qui me concerne, en tout cas, vous voyez, dans le domaine professionnel, heureusement que je suis tombé sur des personnes ouvertes d'esprit. Je parle d'il y a 10 ans, de celle qui a pu me faire rentrer sur France Télévisions et puis aujourd'hui, de mon patron ici à Europe 1, parce que finalement, j'ai eu affaire à deux personnes qui ne portaient aucun jugement sur mon look. Parce que combien de fois ai-je croisé de personnes qui, avec mon look et mes dreadlocks, me prenaient pour un Rastafire jouant du reggae, alors que je déteste le reggae, et fumant des joints. Je déteste fumer des joints aussi. Donc, on voit combien le look peut déterminer dans la pensée de celui qu'on a en face. Vous restez en ligne avec nous, Jean-François Amadieu. Je rappelle que vous êtes sociologue et auteur de l'ouvrage La société du paraître. Dans quelques instants, nous accueillerons Pascal. On l'appelle Becky Jane. Elle est tatouée de la tête aux pieds et a un look de pin-up. Mais ça n'a pas toujours été le cas puisque cette demoiselle a été longtemps une personne assez réservée.
Et Jean-Christophe témoigne sur le Facebook d'Europe 1. Étant jeune, j'écoutais du hard rock et j'avais toute la panoplie qui va avec, un cheveu long, jean déchiré, t-shirt de métal. Aujourd'hui, j'écoute toujours les mêmes musiques, sans toutes ces postures vestimentaires. En fait, j'étais un homme sandwich, une victime de la mode métal.
Et il est toujours le même.
Il est toujours le même. Europe 1. Nous sommes ce que l'on porte sur le dos, fantaisiste, strict, girly, métal. Que dit votre look de vous ? Vous en discutez avec Olivier Delacroix au 39-21. Un coup d'œil et votre tenue en dit long sur vous. Elle est élégante, originale, décontractée ou au contraire. La couleur de votre pull et vous, rien à voir. Vous nous le dites au 39-21. Vous retrouvez Olivier Delacroix.
Et puis bien sûr, lorsque je faisais référence à comment on me décrivait, j'ai dit Rasta Fire au lieu de Rasta Farai. Même si Fire... Et le
c'est
feu, le feu ma bite. Vous savez, donc c'est une notion, c'est un lapsus révélateur. Nous accueillons maintenant Pascal sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Pascal.
Bonjour.
J'ai fait une petite erreur tout à l'heure. On ne vous appelle pas Betty Jane, mais Betty Love. Et
Betty Love.
On va savoir pourquoi. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, je vais avoir 49 ans donc, au mois de juin. Oui. Et donc je suis de Saint-Max, près de Nancy.
D'accord.
Nantes-Nouvelle. Voilà.
Alors, donc, je vous appelle Pascal, mais on vous surnomme Betty Love. C'est un personnage que vous vous êtes créé.
Disons que nous donnons toujours des surnoms au niveau des pin-up de toute façon. Donc,
ouais.
On en choisit toujours un, on va dire, et donc j'ai choisi Betty Love. Voilà.
D'accord. Vous dites qu'avant de rencontrer votre mari il y a 16 ans, vous étiez plutôt une jeune fille réservée, timide. Quel était votre style à l'époque ?
C'était un style classique. Donc je m'habillais un peu comme tout le monde.
Hein, alors, c'est quoi classique et s'habiller comme tout le monde ?
Là, c'est une bonne question. Là, pas extraverti, donc des tenues noires,
assez neutre.
Des jupes, assez neutre. Voilà, mm-hmm. Il n'y avait pas de peps, il n'y avait pas de pétillant comme j'ai actuellement.
D'accord. Alors, c'est votre rencontre avec votre mari qui a vraiment tout déclenché au niveau de votre look. Qu'est-ce qu'il a, ce mari, pour vous avoir emmené sur ce chemin-là?
Lui, de toute façon, il est déjà passionné depuis très très longtemps, dans les années 50 et tout, donc il est motard déjà.
D'accord.
Et puis quand j'ai rencontré, il m'a baigné dans ce monde, le monde biker, des motards, et
d'accord,
le monde aussi des voitures américaines. Donc au fil des années, donc je me suis intéressée un peu plus près des années 50, et puis ça m'a permis d'évoluer et puis me transformer, on va dire, petit à petit en pin-up et trouver surtout mon look actuel et m'épanouir dans ce look.
Alors, je dois préciser pour tous ceux qui nous écoutent que le look et surtout les pin-up, ce qu'on appelle les pin-up aujourd'hui, ce sont ces femmes qui sont tatouées de la tête aux pieds, mais avec un style lié aux années. À quelles années vous rattacheriez ça ?
Alors déjà, je rectifie. Donc toutes les pin-up ne sont pas tatouées, parce qu'il faut
d'accord
savoir que dans les années 50, la pin-up n'était pas tatouée. Donc
non,
ça a évolué avec
vu
le temps.
Oui.
Voilà, c'était mal vu. Ça a évolué avec le temps et on rencontre donc de plus en plus de pin-up tatouées, dont moi, mais qui est quand même exceptionnel parce que j'en ai énormément, on va dire comme ça.
Et puis quand même, il faut que je rectifie aussi. Moi, j'ai rencontré beaucoup de pin-up aujourd'hui, dans les conventions de tatouage, par exemple, qui réunissent souvent le monde de la moto, des voitures américaines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu que ça n'est plus mal vu, bien les femmes tatouées, il y en a beaucoup, des pin-up tatoués, il y en a pas mal.
De plus en plus, je pense.
Qu'est-ce que ce look dit de vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il fait comme différence entre la femme que vous étiez hier et celle que vous êtes aujourd'hui ?
Grâce à ce look, j'ai trouvé donc mon style, j'ai réussi à m'épanouir, je me sens vraiment, vraiment bien dans ma peau.
Ouais.
Donc, je suis passionnée des années 50, je me suis même, j'ai poussé ma passion à me faire tatouer toute ma jambe gauche avec les portraits de mes idoles.
D'accord.
Marilyn Monroe, Elvis, Audrey Hepburn, Johnny Cash, Elizabeth Taylor, James Dean.
Combien de tatouages en tout ?
Oh là là. Donc j'ai arrêté à 100 à 120, parce qu'après je vais prendre plus.
Ah oui, d'accord. Plus d'une centaine.
À peu près 70% du corps tatoué, on va dire.
D'accord. Voilà. J'aimerais savoir ce que votre entourage, les copines ont pensé de vous, les copines d'avant, celles que vous fréquentiez dans l'ancien monde, celui des tenues discrètes et qui vous ont vu d'un seul coup évoluer vers tout ça. Quel regard ils portent sur vous ? Elles portent sur vous ?
Elles trouvent que je suis beaucoup plus épanouie,
ouais,
beaucoup plus audacieuse, on va dire, beaucoup plus pétillante, beaucoup plus extravagante. Et elles trouvent que le look actuel me va énormément
ça
bien.
Ça vous fait du bien. Ouais.
Ah ouais, ça me fait du bien.
Je me tourne vers Jean-François Amadieu. Je rappelle que vous êtes sociologue et auteur de La société du paraître. Avoir un look bien à soi, excentrique, assumé. Est-ce que c'est revendiquer quelque chose de particulier ? Est-ce que c'est vraiment s'affirmer dans quelque chose ?
Oui, bien sûr. Alors là d'ailleurs, dans le cas de Pascal, c'est très clair, puisqu'il y a l'appartenance à ce qu'on appelle parfois une tribu, en tous les cas un groupe clairement identifié, il y a des références, donc, puisque Pascal indique bien que c'est une référence à ce qu'était la Pinède depuis les années 40, mais revisité.
Écartez à nouveau votre petite main du téléphone.
Oui, et puis son motard, et puis son compagnon, et le. Je dirais qu'elle a adopté les codes, et notamment les tatouages du groupe auquel elle appartient. Elle entend appartenir, donc ça c'est très clair.
Pascal, vous restez en ligne avec nous, Jean-François Amadieu aussi, on va garder tout le monde. Et puis dans quelques instants, on va accueillir Anan. Elle n'a jamais été très attachée à son apparence, mais elle a fait appel quand même à une conseillère en images pour se relooker et se reconnecter avec elle-même. Et on va savoir ce que c'est que se reconnecter avec soi-même.
Et sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, Anso écrit « Notre look peut être notre carapace, on peut se cacher derrière, faire semblant d'être ce que l'on n'est pas ou tout au contraire être le reflet ». De notre réel caractère.
Europe 1.
Les vêtements que vous aimez, quelle image renvoient-ils de vous ? Vous vous cachez derrière un pull trop ample ou vous vous affirmez à l'aide d'un pantalon léopard ? Eh bien, venez nous le dire, venez témoigner sur Europe 1 39-21. Fashion victime comme Lady Gaga, vous avez la sensation de flirter avec les sommets. Vous faites attention à ce que vous portez. Que révèle votre style de votre personnalité le 39-21 ? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Anan. Bonjour Anan, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Anan, vous êtes là ?
Oui, bonjour. Je suis là.
D'accord.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Anan ?
J'ai 48 ans et j'appelle de Paris.
D'accord. Alors, vous dites que vous n'avez jamais été... très attachée à votre apparence, ça se traduit comment en fait ?
Ça se traduit par le fait que j'ai peut-être grandi dans un environnement où le cerveau était plus important que l'apparence.
Oui.
Même une certaine rébellion au moment de l'adolescence pour aller un peu à l'encontre des codes de l'environnement dans lequel j'étais, qui est plutôt bourgeois. Rebelle du coup aussi par rapport à tout ce qui est mode. Ça se traduisait plutôt par des looks un peu passe-partout qui faisaient un peu hurler ma mère, mais bon, voilà,
rebelle,
c'était ma
rebelle,
façon de m'exprimer.
Rebelle par rapport à la mode, pourquoi ça m'intéresse moi ? Parce que je vous donnerai mon idée sur la mode aussi, en tout cas, j'ai un truc à vous dire sur la mode, mais dites-moi pourquoi vous ?
En fait, moi, c'était, j'étais plutôt à ce moment-là vraiment à croire que l'habit ne fait pas le moine et que ce qui était important, c'était ce qu'on pensait, les points de vue qu'on avait, et que la mode, ça avait un côté, le prêt-à-porter, ça avait un côté mouton, suivre les tendances, et que quelque part, j'étais au-delà de ça. Et puis aussi parce que j'ai grandi dans un environnement où, au contraire, bourgeois, l'apparence était importante. Moi, j'ai grandi au Maroc.
Oui.
Et quand on est dans la bourgeoisie marocaine, il faut attacher un certain soin à son apparence, surtout quand on est une jeune fille. Parce que peut-être qu'on est une jeune fille et c'est d'abord une jeune fille bonne à marier, etc. Donc, il y avait un certain nombre de codes auxquels je n'adhérais pas du tout. Et j'étais plutôt attachée à les transgresser à ce moment-là.
Alors si je résume un peu quand même, c'est que vous étiez en révolte contre pas mal de trucs, hein, contre les moutons, hein, ceux qui suivent la mode qui s'inspire souvent et qui pille. On entendait Sylvie Ohayon au début de cette émission. Et moi, c'est vrai que j'ai un vrai problème avec la mode qui pille, voilà, la mode punk, la mode rock'n'roll. Et quand on sait dans quelle opulence les gens qui créent, qui gravitent dans ce milieu évoluent, il y a quelque chose qui me gêne profondément dans tout ça. Mais la mode, finalement, est comme ça. Et puis, il y a ces moutons qui suivent les acheteurs. Et puis, votre monde bourgeois. Pourquoi avoir décidé à un moment qu'il fallait quand même faire un petit effort ?
En fait, c'était pas une question d'effort par rapport à mon apparence. En fait, ça, c'est une démarche, ma démarche de me faire accompagner par un coach, Marion, pour ne pas la citer.
Ouais.
C'était plutôt une époque, à l'issue d'une période où j'avais, c'était il y a quelques mois, je sortais d'une période où je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup donné aux autres, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de la famille. Et qu'il était un peu temps de prendre soin de moi. Alors ça s'est accompagné par des démarches au niveau de ma santé, avec des check-ups que je n'avais pas fait depuis très longtemps, au niveau aussi de mon bien-être psychique. Et en fait, c'était une démarche pour me dire, bon, bah, ok, là, je prends soin de moi, j'oublie un peu les autres, qui je suis. Ouais. J'ai beaucoup été caméléon, parce qu'après cette adolescence et des codes un peu passe-partout, j'ai travaillé dans un univers très masculin, le monde du conseil en finance.
Ouais.
Et du coup, où là, l'apparence était extrêmement importante. Mmh. J'ai très bien joué, moi je suis un caméléon, j'ai joué le jeu, je me suis adaptée à cet univers masculin où j'étais très jeune avec beaucoup de responsabilités, où il fallait finalement afficher, représenter la marque de l'employeur. Ensuite, j'ai travaillé dans les médias, donc là, c'était beaucoup plus libre. Mais là aussi, il y a des codes. Il ne faut pas croire que quand on est des univers plus cool, il y a moins de codes.
Mm-hmm. Et donc, c'est pas spécialement après, un univers très cool, celui des médias, mais bon.
Non, mais il y a quand même des. En fait, c'est une fausse solitude.
Voilà, on peut imaginer qu'il y a plus de marge
de comportement vestimentaire.
D'excentricité.
Et finalement, exactement. Donc finalement, là, je me suis dit, mais t'es qui toi, en fait?
D'accord.
Et sans forcément croire être à l'opposé de l'habit ne fait pas le moine, de dire que. Mais je me suis dit, bon, bah voilà, il y a un moment où j'ai envie de me retrouver. Je sais vaguement qui je suis, mais est-ce que. Et pourquoi pas que l'intérieur, finalement, s'affiche à l'extérieur.
Alors, vous avez fait ce travail avec Marion, qui est devenue votre conseillère. Le résultat vous a-t-il plu et comment ce résultat est-il plus en phase avec celle que vous êtes aujourd'hui? Comment est-ce que c'est quoi votre look aujourd'hui? Comment vous le définiriez?
Ben, j'ai toujours pas de look. Hein. Si je devais, c'est Marion qui dit finalement c'est chic, classique, mais avec une certaine
discrétion. Je vous entends. Ah, ça y est,
vous m'entendez mieux.
Pardon,
excusez-moi. Je disais que c'est un look finalement assez chic, classique.
Oui, mais c'est
cool.
Peut-être celui. Bah, c'est peut-être celui qui vous convient.
Vous êtes absolument.
Vous êtes chic, classique, intelligente, et donc quel est l'intérêt de pousser plus loin finalement?
Mais aucun. C'est simplement, ça a été un moment finalement que je me suis accordée. C'était une démarche relativement intime. Je ne l'ai pas crié sur les toits. C'était très important que je fasse confiance à la personne qui m'accompagne dans cette démarche. Je la connaissais d'avant.
Ouais.
Son regard a été plutôt un regard de... Finalement, je ne me suis pas transformée. Je n'ai pas changé de look, mais je suis quelque part révélée, un peu plus rayonnante.
Rassurée.
Et l'habit, j'ai écouté avec beaucoup d'intention et beaucoup d'intérêt les premiers témoignages. Pour moi, l'habit, finalement, et le look, c'est un outil.
Mmh. Souvent.
On en fait ce qu'on veut. On peut l'utiliser aussi bien professionnellement que personnellement. Et moi, c'était important pour moi, à ce moment de ma vie, de faire cette démarche pour me retrouver. Et pour me dire, bah voilà, je suis pas forcément très extravertie, ni très, j'ai plein de défauts physiques et aujourd'hui je les vois plus.
En tout cas,
je me regarde avec beaucoup plus de bienveillance.
Et bah voilà, c'est ça. J'allais parler justement de ce moment-là que vous êtes accordé enfin pour vous. J'ai envie de dire parce que j'entends que vous avez beaucoup donné aux autres, beaucoup donné au travail et que à ce moment où que vous êtes accordé pour vous. Vous vous êtes accordé aussi un peu le regard de quelqu'un d'autre et puis c'est s'accorder un peu de bienveillance envers soi-même. Et puis vous vous êtes aperçu finalement que ça n'allait pas si mal, Anna, non?
Absolument, ça n'allait pas aller si mal et que j'avais des défauts comme les autres.
Ouais.
Et plutôt que de m'attarder sur les défauts, si on mettait en avant les atouts.
Mmh. C'est mieux. Merci beaucoup pour votre témoignage cet après-midi, Anan. Et puis à
merci
bientôt. J'espère que j'aurai l'occasion de rééchanger sur vous, avec vous, sur ce sujet, parce que je trouve que vous avez une définition très juste, finalement, de ce qu'on cherche aujourd'hui à expliquer, à montrer. C'est que ce look, il est important, soit, mais il ne définit pas tout finalement. Bon après-midi Anan. Dans quelques instants, eh bien, nous serons toujours avec Pascal et Jean-François Amadieu. Puis on va reparler justement de ce qui nous définit, et puis du regard des autres sur les tatouages, tout ça. Est-ce que ça peut changer et est-ce que ça peut définir et comment peut-on évoluer comme on a pu l'entendre avec Anan tout de suite.
Et Christian sur Facebook nous écrit « Mon compagnon a un look d'enfer, pantalon noir féminin, barbe, grosse mèche décolorée, Santiago. Quand nous sortons, je remets les gens à leur place suite à leur réflexion ou regard insistant. Son précédent employeur, un musée public, s'est séparé de lui car il ne correspondait pas aux fonctions d'animateur jeunesse dans un musée sérieux. » Quelle tristesse.
Europe 1.
Quand le vêtement reflète nos aspirations, ce qu'on veut être, est-ce que ça raconte un bout de notre histoire? Votre look est-il affirmé? 3921 pour nous appeler. Extrait de son album Liberté Chérie, Calogero. Et on se sait par cœur. Vous êtes plutôt look rocker ou queue de pie? Que disent les vêtements que vous portez de vous? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours en ligne avec Jean-François Amadieu, sociologue et auteur de l'ouvrage « La société du paraître ». Et Pascal, j'ai envie de dire ex-Pascal, qui aujourd'hui est Betty Love, pin-up, qui a eu une jeunesse introvertie, un petit peu, en tout cas celle d'une jeune fille discrète. Pascal, justement, je voulais savoir, est-ce que cela vous a posé un problème dans votre métier, dans le cadre professionnel, ce changement? Est-ce qu'on vous a fait des réflexions? Est-ce que ça a pu vous poser quelques problèmes?
Au niveau professionnel, non, parce que j'avais un directeur qui était tatoué, qui était assez souple au niveau des tatouages et tout. Ensuite, j'ai eu quand même deux grosses opérations, donc où j'ai stoppé donc mon métier d'infirmière, on va dire. Mm-hmm. Et donc c'est là que je me suis un peu plus lâchée au niveau des tatouages de toute façon.
D'accord. Est-ce que vous êtes infirmière donc?
Oui.
D'accord. Et est-ce que vous avez parfois senti que ces tatouages, on les regardait, on portait un jugement dessus, pas obligatoirement en vous faisant des remarques, mais que ce look, il dérangeait, qu'on vous jugeait à travers ce look?
Disons qu'on a tous les regards. Hein. On a les regards de mépris, parce que c'est vrai que c'est encore, il y a certaines personnes qui sont réfractaires sur les tatouages, mais on a tous les regards. Il y a des regards où ils vont dire « Waouh, qu'est-ce que ça vous va bien ?» pourquoi vous avez ça, et on a pas mal de questions, mais moi avec mon look, parce que c'est un look complet, hein, parce que j'ai le look pin-up, j'ai les cheveux roses, j'ai la coiffure qui va avec et tout, moi j'ai pas trop de soucis parce que ça passe énormément bien, on va dire. Parce que je suis une fille, je ne sais pas, mais le look entier plaît beaucoup. Des fois il y a des personnes qui vont me rencontrer, ils vont avoir un grand sourire. Ils n'osent peut-être pas passer le cap d'être comme moi, mais j'ai beaucoup plus de positif que de négatif. Mmh. Voilà.
Jean-François Amadieu, je me retourne vers vous. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure que lorsque je vais aux États-Unis ou lorsque je vais en Angleterre, hein, on est à 3 heures de l'Angleterre, on peut aller dans une banque, on peut aller au commissariat de police même. Celui qui fait la sécurité à l'entrée du commissariat ou d'un grand magasin peut avoir un anneau dans le nez, les cheveux roses, pareil dans une banque, on le voit à travers les séries. Est-ce qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit encore en France et des limites à ce look?
Oui, alors c'est très important ce que vous êtes en train de dire, parce que il y a des études qui ont été faites dans d'autres pays que la France. En fait, si on résume la situation sur les tatouages et la perception par les gens, il y a effectivement une évolution en raison de la généralisation des tatouages, comme vous l'avez très bien dit, ou du piercing, on en voit davantage. Mm-hmm. Mais néanmoins, malgré tout, pas seulement en France. Hein. Il est certain que dans certains univers professionnels ou à un certain niveau de responsabilité, cette pratique va être dommageable. Mmh. Concrètement, aujourd'hui, les bons vieux stéréotypes, vous savez, qui associaient le tatouage ou le piercing à des tas de choses finalement assez négatives ou à des milieux qui pouvaient être, je ne sais pas moi, ceux de la délinquance ou etc., de la prostitution, que sais-je. Mm-hmm. Tous ces vieux stéréotypes n'ont pas totalement disparu.
On la peau dure.
Oui, ils ont quand même la peau dure, c'est tout à fait frappant. Je prends un exemple d'une étude récente qui a été faite pour regarder comment, par exemple, dans le secteur de santé, puisque Pascal indique qu'elle était infirmière, ou qu'elle l'est. Mais justement, une étude vient d'être faite sur le cas d'une femme ou d'un homme qui serait chirurgien. Et comment ce serait perçu? Eh bien, il suffit d'avoir un tatouage visible, pourtant un seul, sur le cou, par exemple, pour que ça entraîne une perception négative. Il n'en sera pas de même si la personne travaille dans un garage automobile.
En tout cas...
Par rapport au client, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça n'a pas totalement disparu. Et je crois que c'est important de le rappeler, parce qu'il ne faut pas, là-dessus, je comprends qu'on puisse trouver que, ou avoir le sentiment qu'on n'en est pas victime, que finalement, les esprits sont plus ouverts. Mais que ce soit en France ou à l'étranger, il faut savoir malgré tout que lorsque le tatouage et les piercings sont évidemment visibles, les piercings le sont en général, les tatouages pas toujours, il est certain qu'encore aujourd'hui, ça a un effet.
En tout cas, ce que nous avons entendu au cours de cette émission, c'est que ce look, cette apparence nous définit, et puis assez bien, que ce soit Sylvie Wayon qu'on a entendu au début de cette émission, Pascal, Anan, la manière de s'habiller, la manière de finalement de se... Je repense à Anan qui dit « je me suis retrouvé hein, », finalement j'étais en phase avec moi-même, ce look... Eh bien, il a une réelle importance. Notre look évolue, bien évidemment, toute notre vie, tout comme nous. Il est ce lien entre notre intimité et le monde extérieur. Marqueur social ou marqueur de notre propre identité, ce look représente des traits de notre personnalité. Parfois, nous l'avons vu avec tous ces témoignages, et notamment Anan encore, il faut un peu d'aide pour trouver son style. Pourquoi pas le demander? L'important, c'est de se sentir bien dans ses baskets. Et je reprends quand même la citation d'Anissa tout à l'heure, au début de cette émission, n'oubliez pas, l'habit ne fait quand même pas le moine. On peut continuer à en discuter bien évidemment sur les réseaux sociaux.
Oui, bien sûr, sur la page Facebook du groupe Europe 1, sur Twitter, hashtag Europe 1. Et merci beaucoup à Jean-François Amadieu, sociologue et auteur de l'ouvrage La société du paraître, paru chez Odile Jacob.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de l'antisémitisme. Comment expliquer qu'après 2 années de baisse, les actes antisémites aient augmenté de 69% en 2018. Si vous avez subi une agression antisémite, si vous vivez l'antisémitisme ordinaire au quotidien, si l'antisémitisme que vous constatez autour de vous vous fait peur, eh bien n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire, de votre expérience, et nous serons là bien évidemment pour vous écouter. Ma chère Ambline, j'ai été ravie de passer cette heure à vos côtés. Il est temps maintenant de retrouver l'excellent Carl Zero qui aujourd'hui va nous parler de pirouettes et d'art.